Les mystères du Palais-Royal, sixième partie. Chapitre 34. La tour carrée. Quelques minutes suffirent à nos trois personnages pour atteindre la cour d'honneur du château. Cette cour sinistre dont les ténèbres cachaient en ce moment les ruines désolées. Là, il fallut mettre pied à terre. « Cher enfant bien-aimé, » dit Raoul à Jeanne, tandis que Jacques conduisait les chevaux dans l'une des écuries qui se trouvait à quelque distance. « Te sens-tu la force de marcher, ou bien veux-tu que je te porte encore ?»«
Il me semble, mon ami, » répondit Jeanne, « il me semble qu'en m'appuyant sur toi, j'aurai la force.
Nous n'allons pas loin, je pense. »«
Non, tout près. » »«
Eh bien, marchons. »
Jeanne passa ses deux bras autour de l'un des bras de Raoul, et soutenue par lui, elle le suivit d'un pas lent et mal assuré. Nos lecteurs se souviennent-ils de la première entrée du chevalier de la Tremblay dans le château des fantômes, sous la conduite de la reine Émeraude? Nous aimons à le croire, car nous comptons sur l'exactitude de leurs souvenirs pour nous épargner les redites d'une seconde description. Depuis l'époque, éloignée déjà de cette visite au mur croulant de la Baume, rien n'était changé dans le vieux manoir. Quelques pans de murailles, encore debout alors, étaient tombés. Le lierre avait épaissi son manteau verdoyant et destructeur. Voilà tout. Raoul dirigea Jeanne vers l'un des angles de la cour. En cet endroit, les décombres étaient amoncelés jusqu'à la hauteur des ouvertures béantes du premier étage. Parmi les décombres, on avait pratiqué une sorte de tranchée étroite, profonde, tortueuse. Cette tranchée aboutissait à une poterne percée dans la muraille épaisse de cette haute tour carrée que nous connaissons, sentinelle géante, seule debout et presque intacte au milieu des débris qui jonchaient le sol autour d'elle. La porte était en bois de chêne, bardée de fer, et comme celle du petit Chastel, elle pouvait défier un assaut. Nous savons que Raoul, qui ne venait que rarement au château de la Baume, y était cependant sans cesse attendu, en sa qualité de chef suprême des faux-monnayeurs. Arrivé devant cette porte, il frappa dans ses mains par trois fois, en espaçant chacun de ses coups. La porte s'ouvrit d'elle-même. Avons-nous besoin de rappeler à nos lecteurs que rien n'était plus hideux et plus lugubre que la pièce humide et voûtée qui formait le rez-de-chaussée de la vieille tour? Une lampe de fer, accrochée à la muraille, éclairait vaguement les enfoncements noirs et les pierres de taille verdâtres et moussues. Jeanne ferma les yeux avec effroi et Raoul la sentit tressaillir à son bras. Alors se passa ce qui s'était passé avec Émeraude. La voûte s'entr'ouvrit et de cette ouverture jaillit une lumière vive. En même temps, une petite échelle de fer à rampe de soie descendit et vint appuyer son extrémité sur les dalles aux pieds de Jeanne. Si élégante que fût cette échelle, Jeanne était évidemment trop faible pour la gravir. Raoul la reprit dans ses bras et la transporta dans un ravissant petit salon que nous avons cru décrire autrefois d'une manière suffisante en disant qu'il renfermait les mille et une merveilles du luxe le plus raffiné. Un escalier de fer, appuyé contre une des murailles tendues de soie des Indes, escalier d'une si merveilleuse légèreté qu'on aurait pu le comparer à une dentelle noire, conduisait à la chambre à coucher située au second étage de la tour. Dans la profonde cheminée, brûlait un feu solide et permanent qu'on entretenait chaque nuit avec des bûches qui étaient de véritables troncs d'arbres. Raoul étendit dans un moelleux fauteuil tout auprès de la cheminée Jeanne, que l'air vif et le froid de la nuit avaient glacé sous ses légers vêtements.
« Ah ! » murmura-t-elle en présentant ses mains à la flamme. « Ah, que ce feu fait de bien !»
Et la jeune femme s'abandonna avec une joie enfantine aux douces voluptés de la chaleur. À la voir ainsi, souriante malgré sa pâleur, on eût dit qu'en effet, tout souvenir de ce qui s'était passé depuis la nuit de l'évocation venait de s'effacer de son esprit sans y laisser de traces, comme s'évapore une vapeur nocturne aux premières clartés du matin.
« Mon ami, » lui demanda Raoul, « souffres-tu ? » ?»«
Non, seulement j'ai faim, j'ai bien faim. Ne pourrais-je donc manger un peu ?»
De même qu'un grand feu brûlait sans cesse dans la cheminée du salon et dans celle de la chambre à coucher, un repas était toujours prêt, en prévision de la venue possible du maître. Raoul, comme avait fait Émeraude autrefois, prit un sifflet d'or sur un meuble coquet. Il approcha ce sifflet de ses lèvres et il en tira à trois reprises un son doux et prolongé. Alors, et par l'effet d'un ingénieux mécanisme, la trappe par laquelle était descendue l'échelle de fer et de soie s'ouvrit toute seule. Par cette ouverture, une table toute servie fit son entrée et la trappe se referma. La tour carrée du château des fantômes était machinée comme le théâtre du cirque. La table qui venait d'apparaître de cette façon était chargée d'une foule de mets délicats et de vins exquis. Raoul brisa quelques morceaux d'un pain de fleurs de farine dans une écuelle de vermeil. Sur ce pain, il versa 8 ou 10 cuillerées d'un consommé fumant, et il fit prendre à Jeanne ce potage réparateur. Un petit verre de vin d'Espagne compléta le souper. Dans l'état de faiblesse où se trouvait la jeune femme, le vin d'Espagne agit à l'instant même sur son cerveau. Ses yeux se fermèrent, sa tête pencha sur sa poitrine, elle s'endormit d'un calme et profond sommeil. Raoul la prit dans ses bras comme une mère prend son enfant endormi, et il l'emporta à l'étage supérieur où il la coucha sans que son sommeil fût troublé. Ceci fait, comme il était lui-même épuisé de fatigue et mourant de faim, car depuis 3 jours il avait à peine mangé et bien peu dormi, il redescendit au salon, soupa copieusement, s'enveloppa de fourrure et s'étendit sur un sofa qui devait lui servir de lit. Il faisait grand jour quand il se réveilla. Il rajusta rapidement sa toilette en désordre et il monta dans la chambre à coucher. Jeanne dormait encore. Un sommeil doux et vivifiant avait presque entièrement effacé les traces des désastres causés par la douleur et par la faim. La jeune femme n'était plus pâle, une teinte rosée s'étendait sur ses joues, et ses lèvres avaient repris leur incarnat si vif et si frais. Raoul s'assit auprès de son lit et il attendit qu'elle ouvrit les yeux. Cette attente dura plus d'une heure. Au bout de ce temps, Jeanne s'éveilla, et voyant Raoul auprès d'elle, son premier mouvement fut de lui jeter ses deux bras autour du cou. Mais elle se souvint, elle s'arrêta, et elle lui tendit sa main, que Raoul serra passionnément contre ses lèvres. Jeanne était à peu près complètement remise, et Raoul, comprenant bien qu'un peu plus tôt ou un peu plus tard, il faudrait revenir une dernière fois sur des faits douloureux et parler de tout ce qui venait de se passer, se dit qu'il valait mieux en finir à l'instant même. Il interrogea Jeanne, qui lui raconta tout. Elle lui dit son épouvante en apprenant par Jacques que le personnage vêtu de noir, qui était venu le chercher de la part du régent, pourrait bien être un exemple. Elle lui dit la visite d'Antonia Verdi, tombant chez elle comme la foudre, et lui révélant qu'elle, Jeanne de Chambard, ne pouvait être que la maîtresse de Raoul, puisque Raoul était déjà marié. Elle lui dit son désespoir sans borne en recevant la preuve de cette terrible vérité. Elle lui dit comment elle avait résolu de mourir, comment cette pensée lui était venue, d'aller mourir dans l'endroit où elle était née, et de quelle façon elle était partie, à pied, sans argent, n'emportant avec elle que la clé de la maison dont elle voulait se faire une tombe. Elle lui raconta qu'arrivée pendant la nuit au petit Chastel, elle avait refermé la porte sur elle, avec la ferme croyance que cette porte ne se rouvrirait pas, elle vivante. Elle s'était demandé alors quel genre de mort elle choisirait, et comme il lui semblait qu'elle offenserait moins Dieu en ne portant point sur elle-même une main criminelle, et en restant, pour ainsi dire, étrangère à l'œuvre de destruction qui s'accomplirait, elle avait décidé de se laisser mourir de faim. Dans une pensée de touchante superstition, elle s'était revêtue de l'une de ses robes blanches de jeune fille, et tant que ses forces ne lui avaient pas manqué, elle avait foulé les allées de ce jardin témoin des jeux de son enfance. La nuit, les ténèbres lui faisant peur, elle avait allumé dans sa chambre et près de son lit une petite lampe. Le troisième jour, au matin, elle s'était sentie faible au point de ne plus pouvoir descendre l'escalier qui conduisait au rez-de-chaussée. Cette troisième journée lui avait paru bien triste et d'autant plus longue qu'elle commençait à souffrir de véritables tortures. Les angoisses succédaient aux angoisses. Une sueur froide baignait tout son corps. Des bruits étranges bourdonnaient à ses oreilles. Des langues de feu, semblables à des épées flamboyantes, passaient devant ses yeux. Au milieu de ces indicibles souffrances, il y avait des moments de calme. L'agonie commencée s'interrompait soudainement pour recommencer bientôt après. Enfin, la nuit arriva. « Je ne verrai pas le jour de demain se lever », s'était dit Jeanne. Elle se traîna jusqu'à son lit, sur lequel elle s'étendit en arrangeant les plis de sa robe d'une main défaillante, mais chaste jusqu'au dernier moment. La petite lampe allumée jetait autour d'elle ses douteuses lueurs, comme ces lampes sépulcrales qu'on allume dans les tombeaux. Jeanne ferma les yeux et elle attendit la mort. Ce ne fut pas la mort qui vint, ce fut Raoul, ce fut la vie. Le soir de ce même jour, Raoul prévint Jeanne qu'il allait faire une absence. Il ajouta que cette absence pouvait ne durer que 24 heures, mais qu'il était possible aussi qu'elle se prolongeât pendant 2 ou 3 jours. Ainsi que la chambre des mages et que le logis de la rue du Croissant, la tour carrée renfermait un choix nombreux de travestissements. Monsieur de la Tremblay se fit une tête militaire et revêtit un uniforme d'officier de cavalerie. Puis il se mit à la tête d'une petite troupe de 8 hommes, choisis parmi les plus intelligents et les plus dévoués des faux-monnayeurs, tous bien montés, parfaitement équipés, et 2 heures environ après la tombée de la nuit, il prit avec eux, à travers les bois, les chemins dérobés qui conduisaient à Saint-Germain. Raoul et sa fidèle bande allaient à Paris. Il était à peu près 1 heure après minuit quand ils arrivèrent en face du petit Chastel. Raoul s'arrêta un moment devant la maison. La porte massive avait été brisée et jetée en dedans, et nul n'avait pris souci de la remettre à sa place. L'intérieur de cette pauvre demeure restait ainsi abandonné et livré au pillage des passants et des vagabonds. « C'est bien, » murmura Monsieur de la Tremblay en se remettant en marche. « Tout est bien. Si lourd que soit le compte, il sera facile à régler. » La petite troupe entra sans la moindre difficulté dans Paris, grâce à l'uniforme et aux épaulettes de Raoul qui en imposèrent aux soldats du poste. À la hauteur de l'endroit où se trouve aujourd'hui le théâtre des variétés, Raoul descendit de cheval. Il dit à ses hommes de se disperser et d'aller chercher un asile dans différentes hôtelleries qu'il leur désigna. Il leur recommanda la plus extrême prudence et leur enjoignit de se trouver tous à 1 heure convenue dans un lieu où il irait les rejoindre et où il les mettrait au fait de ce qu'il attendait d'eux. Ensuite, il gagna la rue du Croissant. Tout était en bon ordre dans le logis mystérieux que la police du Régent n'avait certainement pas découvert. Abandonnons à eux-mêmes, quant à présent, le chevalier et ses compagnons. Nous ne tarderons guère à savoir ce qu'ils étaient venus faire dans la grande ville.
Chapitre 35. L'homme au galon.
Minuit venait de sonner à tous les clochers de Paris. Antonia Verdi avait soupé la veille au Palais-Royal et se disposait à réparer, par une nuit de calme sommeil, les fatigues de cette nuit blanche. Après s'être fait déshabiller par ses femmes, elle les avait renvoyées, et seule, en robe de chambre, dans le boudoir que nous connaissons, étendue sur un sofa devant un grand feu, elle repassait dans son esprit, avant de se mettre au lit, les nombreux et bizarres événements qui s'étaient succédés pendant les derniers jours. Instruite depuis la veille de la disparition de Raoul et de Jeanne, elle supposait, comme le régent, qu'ils avaient dû s'échapper ensemble. Et elle maudissait la maladresse de la police qui ne s'était point opposée à cette double fuite. Et elle raillait intérieurement la chevaleresque confiance de Philippe d'Orléans en la parole de gentilhomme du chevalier de la Tremblay. La nullité du résultat de la descente faite au petit Chastel ajoutait à l'irritation de l'ex-fille du diable. C'est qu'Antonia Verdi, il faut bien le dire, éprouvait pour Raoul une haine aussi profonde qu'avait été sans bornes jadis l'amour que le beau chevalier lui inspirait. Pourquoi cette haine? Qu'avait-elle donc à reprocher à celui dont elle n'était devenue la femme que grâce au crime infâme de l'assassinat de Déborah? Antonia abhorrait Raoul parce que Raoul avait tué M. d'Avisac, qu'elle aimait ou qu'elle croyait aimer. Elle l'abhorrait parce qu'il avait blessé le vicomte d'Aubigny, son protecteur au Palais-Royal, et parce que Jeanne avait été la cause de la mort du vicomte. Elle l'abhorrait enfin parce qu'il était devenu son rival dans la faveur du régent et parce qu'il avait voulu renverser le piédestal sur lequel elle se posait. Pour une âme aussi corrompue, aussi profondément vicieuse et méchante que celle d'Antonia Verdi, n'y avait-il pas dans tout cela sans motif de haine implacable? Donc, Antonia Verdi pensait, et des plis profonds se creusaient entre ses sourcils noirs, et des éclairs jaillissaient de ses grands yeux noirs, comme de la prunelle fauve d'une jeune tigresse. Soudain, un coup de cloche retentit à la porte extérieure de la cour. « Qui donc peut venir à cette heure ?» se demanda la jeune femme en se soulevant. Mais presque aussitôt, elle reprit son attitude et sa nonchalance en se disant « Que m'importe ?» Voyons ce qui se passait en dehors de l'hôtel, tandis qu'Antonia Verdi rêvait ainsi dans son boudoir. Un grand carrosse entièrement noir et lugubre dans son apparence, comme ces voitures de deuil qui suivent les corbillards aux enterrements, avait parcouru lentement la rue de la Cerisaie et s'était arrêté à 40 ou 50 pas de la maison donnée par le régent à Antonia. Ce carrosse était attelé de 2 chevaux, qui semblaient des animaux d'une grande valeur et d'une ardeur infatigable. Un postillon les conduisait. 4 cavaliers accompagnaient ce sombre équipage dans lequel se trouvaient 3 hommes. Quand la voiture s'arrêta, les 3 hommes descendirent. À la clarté faible des lanternes, il eût été possible de distinguer leurs costumes. L'un d'eux portait un ample habit bleu chargé de galons et un chapeau également galonné. Il tenait à la main une haute canne de jonc à pommes d'or. Les 2 autres étaient en uniforme de soldats aux gardes. Ils avaient le fusil sur l'épaule. Ces 3 hommes se dirigèrent vers la porte de l'hôtel et le personnage galonné agita la chaîne de fer de la cloche. C'est ce coup de cloche qu'Antonia Verdi avait entendu. Sachant que sa maîtresse ne sortirait pas, et d'ailleurs ayant reçu l'ordre de ne laisser arriver personne jusqu'à elle, le portier, ou, comme on disait alors, le Suisse, avait jugé convenable de se mettre au lit de bonne heure. Jean Carré et les autres domestiques en avaient fait autant. Ce fut donc avec une mauvaise humeur manifeste et après quelques minutes employées à revêtir un caleçon et à chausser des pantoufles, que ce Suisse, brusquement arraché aux douceurs de son premier sommeil, montra son visage rogue au guichet grillé, pratiqué dans la petite porte qui se trouvait à côté de la grande, et demanda d'une voix maussade. « Que voulez-vous ? » « Nous voulons parler à votre maîtresse, la signora Antonia Verdi, » répondit l'homme au galon. La rue était obscure, et le portier ne pouvait distinguer ni les galons ni les uniformes. « Repassez demain, » dit-il brutalement. Et il se disposait à rentrer dans le pavillon où se trouvait sa loge. « Nous ne repasserons pas demain, et nous entrerons sur le champ. »« Alors, » répliqua le portier avec un ricanement, « ouvrez la porte vous-même. »
Chapitre 36. L'arrestation. Le personnage qui prenait seul la parole frappa dans ses mains. 2 des cavaliers qui stationnaient auprès du carrosse se détachèrent et arrivèrent aussitôt au galop de leurs chevaux.
« Main forte !» leur dit l'homme au galon. « On résiste !»«
Ah ça ? Mais !» balbutia le portier tout effaré. « Qui êtes-vous donc ?»«
Ordre du régent !» lui fut-il répondu. « Voulez-vous ouvrir, oui ou non ?»
J'ouvre, j'ouvre à l'instant, mon digne seigneur.
Si je n'ouvrais pas, c'est que j'ignorais.
C'est bien.
Le Suisse ouvrit en effet d'une main tremblante, car la plus complète et la plus profonde épouvante venait de s'emparer de lui. Les 3 hommes entrèrent et les 2 cavaliers, sentinelles immobiles, demeurèrent dans la rue.
À quel étage se trouve la chambre à coucher de la signora ?
Demanda l'homme au galon.
Au 1er étage. « Vous avez de la lumière dans votre loge ?»«
Oui, mon officier. »«
Allez la chercher et apportez-la. »
Le Suisse obéit aussitôt et revint avec une lampe. La clarté de cette lampe se projetant sur le visage de l'exempte, car nos lecteurs, depuis longtemps déjà, ont reconnu un exemple, permit de voir que ce personnage était un homme basané comme un mulâtre et parvenu à un âge assez avancé, à en juger du moins par ses rides profondes et par ses moustaches complètement blanches. Il avait un accent guttural et bizarre qui frappait très désagréablement l'oreille.
« Passez le premier et conduisez-nous, » dit-il.
« À la chambre de la signora ?»«
Oui. »
« Mon officier, voulez-vous que j'appelle une des femmes de madame ?»«
Non. »«
Mais si madame est couchée, elle se lèvera. »«
Ne peut-on la prévenir ?»«
C'est impossible. » »«
Madame ne croira jamais qu'il n'y a pas de ma faute, et quand ces messieurs seront partis, madame me donnera congé. »«
Soyez sans inquiétude. »«
Mais... »«
En voilà assez. Marchez. »
Ces derniers mots furent prononcés d'un ton tellement impératif que le pauvre diable de portier ne put même plus essayer de formuler une dernière objection. Il traversa donc la cour, toujours en caleçon, en pantoufles et en bonnet de nuit, suivi de l'exemple et de ses deux hommes. Il ouvrit la porte du vestibule avec une des clés du trousseau dont il s'était déjà servi pour ouvrir la porte de la rue, et il s'engagea d'un pas tremblant et irrésolu dans le bel escalier de marbre blanc, recouvert d'un splendide tapis pourpre à grandes fleurs qui conduisait au premier étage. En haut de l'escalier, le guide effaré des gens de police ouvrit une porte blanc et or donnant accès dans une antichambre de style rocaille. Deux grands salons qui venaient ensuite furent traversés, et le Suisse s'arrêta.
« Eh bien ?» lui demanda l'exemple. « Pourquoi donc n'avancez-vous pas ?»«
Parce que, » répondit-il, « voilà la porte du boudoir de madame, et voici celle de sa chambre à coucher. Et je ne sais pas si madame est dans sa chambre à coucher ou dans son boudoir. »«
Nous verrons bien, » fit l'exemple.
Et du geste, donnant l'ordre à l'un des soldats aux gardes de s'avancer vers l'une des portes, il se dirigea vers l'autre. En ce moment, Antonia Verdi, très surprise et très alarmée d'entendre du bruit aussi près d'elle, venait de quitter son sofa. Et comme elle ne manquait ni de courage, ni même de témérité, elle avait voulu voir d'où venait ce bruit. Elle ouvrit rapidement la porte et se trouva face à face avec l'exemple. Dans le premier moment de stupeur, elle fit deux pas en arrière en poussant un cri. L'exemple fit de son côté deux pas en avant et se trouva dans le boudoir. Il salua légèrement la jeune femme et lui dit de cette voix gutturale et bizarre que nous avons signalée.
« Est-ce à la dame de la Tremblay ?» se faisant appeler la signora Antonia Verdi, que j'ai l'honneur de parler.
« Oui, monsieur, » répondit la jeune femme avec fermeté.
« Je suis madame de la Tremblay.
Ou, si vous voulez, je suis Antonia Verdi. »
L'exemple salua de nouveau.
« Madame de la Tremblay, » fit-il ensuite, « je vous arrête. »«
Vous m'arrêtez ?» répéta Antonia en devenant pâle.
« J'ai cet honneur. »«
Mais c'est impossible !»
L'exemple salua pour la troisième fois et ne répondit pas.
« Prenez garde, monsieur !» s'écria la jeune femme, les regards étincelants de colère.
« À quoi, madame, je vous prie ?»«
À ce que vous allez faire ? Savez-vous bien que je suis la favorite de Philippe d'Orléans, régent de France ?»«
Ou du moins, l'une de ses favorites d'hier. »«
Oui, madame, je le sais. »«
Savez-vous bien que l'hôtel dans lequel vous êtes vient de m'être donné par lui ?»«
Parfaitement. »
« Savez-vous bien, enfin, que Philippe d'Orléans, régent de France, ne pardonnera point d'avoir touché à un cheveu de ma tête, ou attenté à ma liberté, ne fût-ce que pour une heure ?»«
Madame, » répliqua l'exemple, « je sais tout, mais je sais aussi que son Altesse royale, Monseigneur Philippe d'Orléans, régent de France, pardonnerait bien moins d'avoir transgressé ses ordres formels. »
« Prétendez-vous donc que vous exécutez en ce moment les ordres du régent ?»
« Je prétends cela, oui, madame. »«
Alors, vous avez une lettre de cachet ?»«
Oui, madame. »«
J'ai le droit de la voir. »«
La voici. »
L'exemple tira de la poche de son habit bleu galonné un parchemin revêtu du sceau de l'État. Il déploya ce parchemin et le présenta tout ouvert à Antonia. Cette dernière, parcourut des yeux avec un sentiment de stupéfaction et d'épouvante facile à comprendre, les lignes suivantes.
Nous, Philippe d'Orléans, premier prince du sang et par la grâce de Dieu, régent de France, mandons et ordonnons au sieur Pierre-Charles Vaudois, exempt de la prévôté de l'hôtel, de se transporter, dans le délai le plus bref, rue de la Cerisaie, à Paris, dans la maison habitée par la dame de la Tremblay, se faisant appeler Antonia Verdi. Et là, d'appréhender au corps la dite dame et sans lui laisser le temps ni le pouvoir de communiquer avec personne pour quelque motif que ce puisse être, la conduire dans le lieu indiqué de vive voix au dit exempt de la prévôté. Suivaient la date, la signature du régent et les sceaux de rigueur. La lettre de cachet s'échappa des mains d'Antonia Verdi.
« Disgracié !» murmura-t-elle. « Arrêté ! Mais qu'ai-je fait ?»
L'exempt ramassa son parchemin, le remit dans sa poche et répondit. « Je ne le sais pas, madame.
Où me conduisez-vous ?
J'ai l'ordre de ne pas vous le dire.
Oh mon Dieu ! Mon Dieu !
S'écria la jeune femme en se tordant les mains.
Mais je suis donc perdue ! Perdue !
L'exempt haussa imperceptiblement les épaules, en homme fort blasé sur ces sortes de scènes. Et comme Antonia Verdi, qui ne conservait plus trace de résolution et de fermeté, continuait à gémir et à se désespérer, il dit d'un ton sec.
« Hâtons-nous, madame, l'ordre est formel, et je ne dois pas perdre une minute pour l'exécuter. »
« Cependant, monsieur, balbutia la malheureuse femme, vous ne pouvez m'emmener ainsi.
Pourquoi donc cela, madame ?
Voyez, je suis à peine vêtue.
Passez une robe, si vous le voulez, et faites vite. »
« Devant vous ? Devant ces hommes ?» L'exempt haussa de nouveau les épaules, mais très manifestement cette fois.
« Hé, madame ! S'écria-t-il ensuite. « À quoi bon ces comédies de pudeur ? Vous êtes une habituée des soupers du palais royal. Il me semble que cela dit tout. »
Antonia ne répondit pas. Elle s'enveloppa à la hâte et de son mieux dans une robe noire et jeta sur ses épaules une mante de soie.
« Puis-je emporter quelques vêtements ? Demanda-t-elle.
« C'est inutile. »«
Un peu d'argent. Vous n'en aurez pas besoin. »«
Mais ma maison, mes gens, que va devenir tout cela ?
On y pourvoira. »
Antonia sanglotait.
« Vous êtes prête, madame ?
Fit l'exemple.
« Oui, monsieur. »
« Partons alors. » Et prenant le bras de la jeune femme, plutôt pour l'entraîner que pour la soutenir, il lui fit traverser rapidement les deux salons, l'antichambre, descendre l'escalier, et franchir la cour. La porte de la rue était restée ouverte. L'exempt frappa dans ses mains. Le carrosse noir, escorté de ses quatre cavaliers, s'approcha aussitôt. L'exempt ouvrit la portière et dit « Montez, madame !» Antonia obéit. L'exempt monta à son tour et prit place à côté d'elle. La portière fut fermée, et fermée à clé, ainsi que l'indiqua clairement le bruit sec et strident d'une serrure. Les deux soldats aux gardes grimpèrent sur le siège. Le postillon mit ses chevaux au galop et le lugubre équipage, escorté par ses quatre cavaliers, partit en menant grand tapage sur le pavé des rues de la ville endormie. Les ouvertures des portières se trouvant garnies de volets mobiles, l'obscurité était absolue dans l'intérieur du carrosse. Et il n'existait aucun moyen pour la prisonnière de communiquer avec le dehors. On atteignit une des portes de Paris. Antonia Verdi ne savait laquelle. L'exempt abaissa l'un des volets et cria aux soldats du poste.
« Service du régent, prisonnier d'État !»
Les soldats présentèrent les armes et le carrosse passa. Une fois hors de Paris et le bruit des roues s'étouffant sur la route non pavée, il devint possible à l'exempt d'entendre les sanglots déchirants de sa prisonnière. Il n'en paraissait nullement touché, ou du moins, il ne songeait point à lui offrir quelques-unes de ces banales consolations que les hommes, quel que soit leur âge et leur position dans le monde, ne refusent guère à une femme jeune, belle et désespérée, même si cette femme est coupable et si son malheur est mérité. Du reste, il nous semble qu'on a dû le remarquer, l'exemple, depuis son entrée dans l'hôtel de la rue de la Cerisaie, agissait plutôt en ennemi qui trouve à satisfaire sa haine qu'en agent qui met à exécution les ordres dont il est porteur. Pendant environ 2 heures, le carrosse roula avec une vitesse égale. Au bout de ce temps, il s'arrêta.
« Sommes-nous arrivés ? » balbutia Antonia Verdi d'une voix éteinte.
« Non, madame !» fut la seule réponse qu'elle obtint. En effet, la voiture venait d'atteindre le bas d'une rampe très ardue. Elle avait fait halte. Aussitôt, 2 chevaux tout harnachés, avec leur postillon en selle, était sorti d'un massif d'arbres. C'était un relais préparé d'avance. On attela les chevaux frais et le carrosse repartit.